Confession de théologie par le Père Jean-Marie, l'Église, Sacrement du Salut, le 27 octobre 1995, troisième cours.
Notre petite réflexion, le texte principal, du moins un des textes principaux de ce concile, c'est ce qu'on appelle la constitution dogmatique sur l'Église, et on la nomme par les premiers mots de cette encyclique, c'est « Lumière des nations, Lumen Gentium », en disant « Le Christ est lumière des nations ». Donc, le but, c'est qu'on puisse comprendre un petit peu le pourquoi de ce texte et comprendre l'équilibre de ce texte pour une théologie de l'Église. Mais cependant, avant, on va faire encore un petit détour par la tradition. Alors là, on va survoler en une demi-heure 20 siècles d'histoire. Donc, alors, je suis vraiment désolé, mais là, je serai automatiquement obligé de résumer les choses. Si jamais vous avez des questions, le petit carrefour de ce soir vous permettra sûrement d'y répondre. Mais je voudrais, à travers ces 20 siècles d'histoire, souligner quelques faits importants sur la réflexion ecclésiologique. Autrement dit, la façon dont, dans la tradition, on a réfléchi sur le problème de l'Église. Et quelles sont, de ce fait-là, les précisions théologiques qui ont été apportées. Alors, je distinguerai plusieurs périodes. La première, j'appellerai ça la période patristique, c'est-à-dire la période des pères, que j'arrêterai à l'époque carolingienne pour après rentrer dans l'époque carolingienne, justement. Alors, les pères de l'Église n'ont pas eu de réflexion systématique sur l'Église, mais cependant, du fait de différentes hérésies, vous savez ce que c'est qu'une hérésie ? Une hérésie, c'est quelqu'un qui dit quelque chose d'important, de juste, mais qu'il le dit en mettant tout le reste de côté, et donc, au bout d'un certain temps, qu'il dit des bêtises. Et surtout, qui s'obstine dans sa bêtise. Vous voyez, hérétique, quelqu'un qui s'obstine dans sa bêtise en disant « c'est moi qui ai raison, l'Église a tort ». Parce que sinon, on serait tous hérétiques, parce que de temps en temps, on pense des choses qui ne sont pas complètement orthodoxes, c'est-à-dire dans la droite ligne de la doxa, de la doctrine. Alors, la première réflexion, elle nous est donnée par saint Irénée. Saint Irénée écrit un livre qui s'appelle « Contre les hérésies ». Vous savez, saint Irénée, évêque de Lyon. Et dans ce livre se posait un grand problème. C'était le problème de la succession apostolique. Et la première réflexion sur l'Église, c'est une réflexion de la continuité entre le Christ, les apôtres et les représentants de ces apôtres. Comment peut-on se dire descendant des apôtres? Comment peut-on affirmer qu'on est l'Église? Alors ça, c'est une grande question. Et la réponse, c'est quoi? C'est l'orthodoxie. Autrement dit, par la droite doctrine, orthodoxie, droite doctrine, orthos doxa, on arrive à une filiation. Alors ça, c'est très important parce que, vous voyez, la filiation, elle n'est pas d'abord matérielle, donc autrement dit de cousin en cousine, ou de, vous voyez ce que je veux dire, de père en fils, ou sinon de relation en relation, mais elle est avant tout liée à la doctrine. Alors là, je vous renvoie au chapitre 15 de l'évangile de saint Jean, simplement une petite parenthèse, sur le problème de la filiation chrétienne, le rapport au Christ. Et le rapport au Christ, c'est la question des Juifs, souvenez-vous, au chapitre 15 de l'évangile de saint Jean, les Juifs posent comme question à Jésus, mais que faut-il faire pour Dieu? Quelles sont les œuvres qu'on doit faire pour Dieu? Et le Christ répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Autrement dit, le Christ affirme que l'unité de l'homme avec Dieu se fait par la foi et non pas par une réalisation. Alors c'est important de souligner ça parce que, vous voyez, le corps ecclésial, il va se construire non pas sur une sorte d'unité de parents, vous savez, le cousinage, un truc où on se connaît bien, donc on fait église. Vous voyez, on entend ça de temps en temps, par notre communion, on fait église. Mais non, c'est pas par notre communion qu'on fait église. Vous voyez, c'est du fait de l'orthodoxie, c'est du fait donc de l'adhésion de foi, qu'il y a une relation immédiate avec le Christ et donc qu'il y a effectivement communauté chrétienne. Donc vous voyez, ça c'est une chose importante chez saint Irénée. Bon, bien sûr, alors il faut connaître tout le climat des hérésies du IIe siècle, mais il est important de voir que le souci de saint Irénée, c'est de fonder l'apostolicité et de fonder la succession apostolique. Et cette succession apostolique, elle ne peut se faire que parce que le Christ choisit des disciples, et donc des disciples ont cette capacité de choisir, mais en précisant que, vous voyez, on n'est pas simplement disciple du fait d'un choix humain, mais on est disciple du fait de l'orthodoxie. Alors, ça c'est la première chose. Après, vous avez bien sûr Saint Cyprien. Hors de l'Église, pas de salut. Alors là, qu'est-ce qu'on en a parlé pendant toute l'histoire de l'Église ? On en parle encore. Et c'est vrai que on voudrait, d'une certaine façon, éliminer cette affirmation. C'est vrai que sur, je sais pas, le prône de Pâques, quand vous c'est la prédication à Pâques, si vous commencez comme ça, la bonne nouvelle est annoncée, hors de l'Église, point de salut. Et, on pourrait dire ça, hein, le jour de Pâques, la nuit de Pâques. Vous criez ça dans l'Église, Christus surexit, voilà, l'Église, c'est le lieu du salut. Vous voyez, alors, ce qui est intéressant chez lui, c'est et toute une réflexion d'un type hiérarchique. C'est le premier qui a commencé à établir le rôle de l'évêque. Alors, on verra ça avec les pères latins, principalement avec Saint Léon le Grand et Saint Grégoire le Grand. Mais il est le premier à réfléchir sur le rôle du de l'épiscope, autrement dit de l'évêque. Et ce rôle, c'est un rôle de présidence et de représentation. De présidence de la communauté chrétienne et de représentation de la personne du Christ. Alors, il y a, alors là, vous voyez, je suis obligé d'aller rapidement. Alors, il y a quelque chose de très intéressant chez les pères grecs. Alors, je dis les pères grecs parce que c'est une tendance qu'on voit aussi bien chez les pères cappadociens que chez les autres. Vous voyez, ce qu'on appelle la dimension cosmique de l'Église. Autrement dit, toute une réflexion sur, vous voyez, l'unité du genre humain dans le dessein de Dieu. Et c'est ça, la véritable Église. Autrement dit, la véritable Église, elle se prend du côté de la grâce. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, vous voyez, ça, c'est toute la théologie grecque, hein, insistant sur la dimension de la divinisation, insistant sur la dimension de la grâce. Autrement dit, l'Église, c'est l'union de la totalité. Et l'union de la totalité dans la grâce de Dieu. Après, vous avez une réflexion que l'on doit à saint Ambroise. Je note parce que, bon, et elle sera aussi présente chez saint Augustin, c'est le rapport entre l'Église et l'État. Alors ça s'est soulevé très rapidement du fait de Constantin, mais du fait que l'Église est devenue, d'une certaine façon, l'Empire. Autrement dit, vous voyez, est-ce que l'Église est indépendante par rapport à la visibilité de la communauté humaine ? Ou est-ce que l'Église est adéquate à la visibilité de toute de la communauté humaine, autrement dit, est adéquate à la visibilité de l'Empire. Alors là, il y a de fait un enjeu. Alors c'est l'enjeu de l'augustinisme. Je pense que vous connaissez les deux cités de saint Augustin. Alors ça aussi, c'est important pour une réflexion sur l'Église. Comment peut-on harmonier le temporel et le spirituel ? Est-ce qu'il y a, comment dire, une subordination du temporel par rapport au spirituel ? Comment se fait cette unité ? Et on voit bien que dans l'augustinisme, les deux sont plausibles. Autrement dit, le temporel subordonné au spirituel, ou sinon le spirituel complètement détaché du temporel. Dans l'augustinisme, c'est-à-dire l'interprétation de saint Augustin, non pas saint Augustin en tant que tel. Et alors là, ce qui est très important, c'est de voir qu'il y a un enjeu énorme. Alors cet enjeu, il se précise avec un pape en 590, qui est nommé pape en 590, qui s'appelle Grégoire le Grand. Et il se trouve devant le fait très simple, c'est que le royaume, il est en train de s'effondrer. L'Empire, il s'effondre. Et l'Église, c'est l'Empire. C'est clair. Alors, Grégoire le Grand, donc, lui, est mort en 604. Et tout son travail, c'est de faire en sorte que l'Église ne corresponde pas à l'Empire et d'aller évangéliser les barbares. Mais c'est lui qui a lancé l'évangélisation des barbares. C'est lui aussi qui a lancé l'évangélisation, je vais dire, c'est la même chose, mais des Anglais. C'est lui qui a envoyé saint Augustin, qui était un de ses moines, convertir l'Angleterre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette période, elle est charnière, parce qu'on arrive à une identification tellement forte entre l'Empire et l'Église que si l'Empire s'écroule, l'Église s'écroule. Autrement dit, est-ce que la destinée de l'Église est un modèle temporel ? Et ça, c'est une question importante, parce qu'on retrouvera ça constamment dans toute l'histoire de l'Église. Autrement dit, est-ce que l'Église peut s'identifier à un modèle ? Alors, vous voyez, que ce soit un modèle temporel, que ce soit même un modèle économique ou sociologique, est-ce qu'on peut dire qu'il y a identification entre un modèle, comme l'Empire, comme tel ou tel royaume, et l'Église ? Ou est-ce que plutôt, il ne faut pas dire, ça c'est toute la réflexion que fait Saint Grégoire le Grand dans un livre qui a été très répandu pendant tout le Moyen-Âge et qui était aussi important que tous les écrits de Saint Augustin, qui s'appelle La Pastorale, c'est-à-dire une lettre de réflexion sur le pasteur et sur l'Église et sur la manière dont fonctionnent les sacrements et l'Église. Et la réflexion, c'est de montrer que justement, il ne peut pas y avoir identification parce que le modèle doit manifester le mystère de l'Église, donc doit manifester le mystère de Dieu. Et de ce fait-là, il ne peut pas y avoir pleine manifestation, parce que le royaume, il ne sera pleinement manifesté que dans son achèvement, c'est-à-dire que dans sa dimension eschatologique. Donc, si vous voulez, il est important de voir que là, à cette période de l'histoire, on a effectivement un enjeu de type politique par rapport à l'Église. La conception de l'Église, est-ce qu'elle s'identifie à tel ou tel modèle ? Alors après, vous avez un autre passage qui est l'époque carolingienne. Je vous cite oui, Charlemagne, vous connaissez tous Charlemagne, vous savez tous qu'on l'appelait le chef de l'Église. C'était lui le chef de l'Église. Et là, on arrive un peu au même problème. Autrement dit, une identification entre le monde et l'Église. Et là, ça va beaucoup plus loin. Parce que vous voyez, ce n'est pas simplement l'Empire. C'est dans la pensée. Alors là, vous avez toute ce qu'on appelle l'école théologique carolingienne, hein, principalement Alcuin. Des gens que vous apprendrez à connaître avec le temps, ou voilà, sachez qu'il y en a un qui s'appelle comme ça, et vous pouvez le citer comme ça, un théologien carolingien. Et ce qui est important, c'est de voir que là, il y a effectivement identité entre l'Empire et le monde. Et il y a identité entre le monde et l'Église. L'Église, c'est le monde, c'est l'Église. Et là, c'est la fondation de ce qu'on appelle la chrétienté. Vous voyez, on est en face d'une réalité qu'on appelle la chrétienté, et la chrétienté, c'est tout. Tout est la chrétienté. Et il n'y a rien en dehors de la chrétienté. Alors ça va quand on a quelqu'un comme Charlemagne. Parce que, bon, il a quand même un certain charisme, cet homme, hein, quoique on ne sache pas vraiment, mais d'après l'histoire, il a un certain charisme. Et puis après, ceux qui les ont succédés, bon, de fait, n'étaient pas tout à fait la même taille. Et là, on arrive à une bataille d'empoigne entre l'Église et la cité séculière, qui est assez extraordinaire. Une bataille d'empoigne où, en fin de compte, les évêques, et surtout les papes, vont essayer de récupérer leurs trucs parce qu'ils ont tout perdu. Et là, c'est très amusant parce qu'on a des systèmes de fausses écritures, vous voyez, ce qu'on appelle les faux décrétales, autrement dit des écrits lointains qu'on écrit immédiatement, on fait noircir le papyrus, puis on montre au roi ou au seigneur, voilà mes droits, voilà mes droits, voilà mes droits. Et au bout d'un certain temps, on arrive au sens contraire, la séparation complète entre le temporel, le spirituel. Et là, cette séparation complète, hein, elle prendra sa forme dans ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Alors, la réforme grégorienne, elle prend son point de départ non pas avec Saint Grégoire, mais avec Léon IX, qui était pape de 1049 à 1054, et principalement à travers Grégoire VII, d'où le nom de réforme grégorienne. Alors, vous voyez, cette réforme grégorienne, en fin de compte, c'est quoi ? Ben, le but, c'est de retirer l'Église au pouvoir des laïcs. Ça, il faut le savoir. Vous voyez, retirer l'Église au pouvoir des laïcs, parce que concrètement, c'est eux qui possèdent les Églises, c'est eux qui ont pouvoir de nomination, c'est eux qui ont pouvoir donc de distribuer toutes les charges. Et la grande catastrophe, c'est ce qu'on appelle la simonie. Autrement dit, vous voyez, le service ecclésial devient un service rentable, donc devient un service que l'on paye. Mais toutes les implications que ça a pu avoir. Et donc, le but de la réforme grégorienne, c'est de remettre un peu d'ordre. Premièrement, de l'ordre moral dans le clergé. Alors ça, les Moralia sur Job de Grégoire le Grand ont beaucoup aidé, ainsi que son livre Le Pastoral. Mais tout le but de la réforme grégorienne, c'est de réformer le clergé en retirant l'Église aux mains des laïcs. Et là, pour ça, on va inventer quelque chose d'étonnant. C'est on va soumettre. Parce que vous voyez, il faut pouvoir le réussir, hein, parce que pour qu'un... il faut lire à cette époque les chartes de donation. Vous voyez, quand quelqu'un donne ses terres, faut... Vous voyez, on joue sur un système, mais tout compte fait, si vous obéissez pas, Nous, on a pouvoir de tuer l'âme. Vous pouvez tuer le corps. Alors faites attention. Mais autrement dit, on fait comprendre que ben, le temporel, il a intérêt à bien se tenir, et puis le temporel, il doit être en dépendance radicale par rapport au spirituel. Vous voyez, cette conception qui de soumission du pouvoir temporel au pouvoir sacerdotal, et cela pour le service de Dieu et de son Église. Vous voyez, là, on a un passage important où effectivement, on veut utiliser la force du spirituel pour contraindre le temporel, parce que c'était nécessaire. Et on parlera de domination du pape sur le pouvoir temporel, par son pouvoir sacerdotal. Alors après, je fais un grand saut dans le temps. On va parler de la scolastique, c'est-à-dire 12e, 13e, 14e, 15e siècle, ce qu'on appelle généralement la scolastique, c'est-à-dire toute l'étude, toute la période des grandes études théologiques. Et là, il y a encore peu de réflexion sur l'Église. Et chose étonnante, c'est que la réflexion sur l'Église, elle va devenir... Alors, vous voyez, je saute le 12e et 13e siècle, c'est-à-dire Pierre Lombard, Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, pour venir tout de suite à quelqu'un comme Guillaume d'Ockham et à toute la pensée critique du 14e et 15e siècle. La pensée critique du 14e et 15e siècle, elle va avoir comme conséquence de ne retirer que le formel de la communauté ecclésiale. Et le côté formel, c'est quoi ? C'est le droit canon. Et donc, toute réflexion sur l'Église s'identifiera au droit canon. Et c'est important parce que toute la réflexion du XIIe et XIIIe siècle, qui est une réflexion très riche, on va le voir avec un exemple chez saint Thomas d'Aquin, toute cette réflexion va être mise entre parenthèses du fait de cette proportion à la critique du XIVe et XVe siècle, ce qui fait que seul le formel va rester, seul le logique. Et le logique dans l'Église, c'est quoi ? C'est le fonctionnement. Et ce fonctionnement, qui l'étudie, c'est le droit canon. Autrement dit, l'ecclésiologie égale le droit canon. Et ce qu'on va perdre, c'est toute la grande richesse de la tradition monastique, donc les écoles monastiques, et puis la tradition scolastique. Alors, je voudrais m'arrêter rapidement chez saint Thomas d'Aquin. Alors, pour les frères, je vous invite à aller voir la question 29 du De Veritate, où saint Thomas introduit une idée. Alors là, ce serait intéressant de poser la question à notre spécialiste de saint Thomas, ou en tout cas dans le spécialiste du devenir de chez saint Thomas. Vous voyez, où saint Thomas introduit une idée nouvelle qui consiste à dire que l'humanité du Christ et les sacrements ont une causalité instrumentale dans la réception de la grâce. Et ça, c'est très important. Oui, alors, je répète, parce que c'est un peu compliqué. Rassurez-vous, c'est le seul passage un peu compliqué. L'humanité du Christ et les sacrements ont une causalité instrumentale dans la réception de la grâce. Autrement dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Christ est tête de l'Église. On ne dira pas tête de l'Église, mais il a une grâce capitale. Autrement dit, une grâce en tant qu'il est la tête, et de lui, d'une façon instrumentale, toute personne recevra la grâce. Alors vous voyez, dès qu'on parle de tête, on va parler de corps, dès qu'on parle de tête, on va parler d'unité, et donc on va parler d'unité dans le Christ de l'Église. On va parler d'unité dans le Christ du genre humain. Et ça, c'est quelque chose de tout nouveau. Parce qu'effectivement, on restait dans un langage un peu symbolique, mais cette notion de causalité instrumentale montre bien que par lui, comme dira d'ailleurs saint Thomas dans la tertia pars de la somme théologique, il est la source de toute grâce. Autrement dit, par le Christ, je reçois la grâce. Ce n'est pas simplement une intention divine qui est donnée, qui se réalise comme l'acte de création, mais dans une instrumentalité à travers l'humanité sainte du Christ, l'humanité est unifiée et les sacrements sont là pour souligner l'instrumentalité de cette unification de l'humanité. Vous voyez, ça c'est important de voir que là on est dans un regard théologique complètement radical, du moins complètement nouveau. Chose étonnante, c'est ce regard théologique, on l'aura complètement perdu à travers l'histoire. Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour que ce regard théologique puisse être repris. Mais ce qui est intéressant, c'est de souligner l'originalité d'un tel regard. Je pense que oui, vous avez compris. Alors pour ça, je voudrais vous lire, alors ça c'est pour les spécialistes, excusez-moi, c'est encore le passage un peu quoi plus simple. Vous voyez, dans la question 8, l'article 3, donc tertia pars, vous savez, saint Thomas d'Aquin, pour ceux qui ne savent pas, a écrit une somme théologique. Une somme théologique, c'est un livre fait pour les débutants. C'est un peu comme les choses que vous achetez pour les enfants, vous savez, pour leur première communion. Et ben, pour un théologien débutant, lui achète la Somme Théologique. Vous voyez, il regarde les images et ainsi de suite. Vous voyez. Donc c'est un livre relativement facile comparé à certaines, par exemple à ces commentaires scripturaires qui sont nettement plus difficiles. Alors, dans ce livre, il y a trois parties. La première partie, c'est bon, il regarde la question de Dieu, la question de la création, la question de l'homme et la façon dont Dieu gouverne tout ça. Dans la deuxième partie, il regarde tout ce qui touche l'homme en marche vers sa fin, vers sa finalité, comment il tend vers sa fin. Donc, il va étudier la béatitude, ce qu'on appelle les moyens ou ce qui empêche d'atteindre sa fin, ou vous voyez, les actes humains, les passions, les vertus, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, voilà, il regarde tout ça. Et puis après, il regarde le mystère du Christ dans la troisième partie, le mystère du Christ et les sacrements. Et donc, dans la question 8, il se pose la question de la grâce du Christ. La grâce du Christ, qu'est-ce que c'est? Cette grâce, elle est double. Il y a d'abord une grâce personnelle, qui est la grâce d'union hypostatique. Et je résume, excusez-moi mes frères, mais il y a la grâce personnelle qui est la grâce d'union hypostatique, puis il y a ce qu'on va appeler la grâce capitale du Christ. Et cette grâce capitale du Christ, quelle est-elle? C'est qu'il est source de toute grâce. Donc on va le regarder en tant qu'il est source de la grâce. Il est cause instrumentale dans son humanité de la grâce. Et là, dans la question 8, article 3, saint Thomas pose la question, le Christ est-il tête de tous les hommes? Utrum Christus sit caput omnium omnium. Voilà. Donc on a tous compris ça. Et alors, à cela, il répond de la façon suivante. Si nous considérons en général toutes les époques du monde, le Christ est tête de tous les hommes. Vous voyez, il récapitule toute l'histoire, mais à divers degrés. En premier lieu, et principalement, il est tête de ceux qui lui sont unis dans la gloire. Lui est bienheureux du ciel, ça c'est évident. En second lieu, il est tête de ceux qui lui sont unis actuellement par la charité. J'espère certains d'entre nous, qui vivant de la charité, sont unis au Christ actuellement. Donc il est notre tête. En troisième lieu, de ceux qui lui sont unis par la foi. Ça c'est plus subtil, c'est-à-dire, bon, oui, on croit. Mais bon, l'actuation de la foi par la charité, c'est pas encore ça. Donc, si vous voulez, oui, on croit, Seigneur, que tu es là, mais on est unis virtuellement. Ce qui est le cas de certains. En quatrième lieu, de ceux qui lui sont unis en puissance, donc ils ne le sont pas encore, mais qui dans les desseins de la prédestination divine le seront un jour en acte. Ça, il y a des personnes qui ne connaissent même pas le Christ. Et bien cependant, ils sont unis à lui en puissance. Parce que Dieu les appelle, les prédestine à. Ils sont élus à. En cinquième lieu, de ceux qui lui sont unis en puissance et qui ne le seront jamais en acte, tels les hommes qui vivent en ce monde et qui ne sont pas prédestinés. Quant aux autres qui ont quitté cette vie, ils cessent entièrement d'être membres du Christ, car ils ne sont plus en puissance de lui être unis. Mais ça c'est terrible, autrement dit. Vous voyez, et en même temps ça montre ce que c'est que l'instrumentalité de la grâce. Ce n'est pas une contrainte, c'est le Christ se donnant. C'est le don du Christ. Hein. Vous savez, quand j'aurai été élevé sur la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et la question, c'est qu'est-ce que l'homme en fait? Oui, mais ce qui est très important, c'est de voir que virtuellement, le Christ récapitule l'ensemble de l'humanité. Le seul lieu qui ne peut pas récapituler, c'est le lieu où il y a le refus de l'homme. Vous voyez, intéressante comme conception. Toute cette conception, elle s'articule autour de la question 29 du De Veritate, le problème de la causalité instrumentale. Autrement dit, l'humanité sainte est l'instrument par lequel la grâce de Dieu est donnée. Bon, alors, après, on va aller dans un autre endroit, on va parler de la réforme. La réforme, on connaît tous la réforme, bon, je vais pas m'étendre. La seule chose, c'est le fruit de cette réforme, c'est une remise en question de l'institution ecclésiale et principalement de son autorité. Ça, c'est clair. À cela, la simonie. À cela, les angoisses luthériennes et calvinistes. Bon, il y a des quantités de choses, mais ce qui est remis en doute, c'est l'Église comme signe visible. C'est pas du tout l'Église comme signe spirituel. Ça, on est tout à fait d'accord. Et la notion peuple de Dieu, la notion sponsale et toutes les dimensions que l'Écriture développe au sein spirituel, on est tout à fait d'accord. Mais par contre, c'est la notion de la visibilité de l'Église. Est-ce qu'on a effectivement raison d'avoir une église visible. Ça, c'est toute la question de la réforme. Et à cela répond un homme qui est saint, qui s'appelle Saint Robert Bellarmin, je pense que vous connaissez. Pour votre gouverne, il est mort en 1593. Et son grand travail, c'est de travailler ce qu'est, son grand travail, c'est de souligner ce qu'est la visibilité de l'Église. Et de défendre l'autorité papale. Alors ça, c'est pas sans conséquence, parce que il est saint, c'est clair, mais il l'a fait selon une certaine optique. Et à partir de ce moment-là, on arrive à une conception de l'Église qui est beaucoup plus juridique, et on arrive surtout à une conception d'une ecclésiologie magistérielle. Autrement dit, vous voyez, l'ecclésiologie, c'est le magistère, en fin de compte. Autrement dit, c'est l'autorité d'enseignement. Toute la réalité de l'Église comme mystère, toute la réalité comme l'Église, temple, corps du Christ, est mise entre parenthèses. Alors, si ça vous intéresse, c'est un théologien qui s'appelle Banèze qui développe ça, et en montrant que, en fin de compte, l'Église, c'est le magistère de l'Église. Oui, on appellera ça l'ecclésiologie magistérielle, du fait que seul le magistère me dit quelque chose de l'Église. Vous voyez, et toute la dimension entre guillemets spirituelle est un peu élaguée. Vous voyez, toute la dimension de la causalité de la grâce avec le Christ est un petit peu élaguée. Alors, d'où la conséquence, c'est on arrivera à une Église qui sera le signe d'un pouvoir, le signe d'une fonction d'enseignement, mais qui sera difficilement perçu comme le mystère de Dieu sur terre. Bon, il faut savoir ça parce que vous comprendrez après ça ce que dit Lumen Gentium. Alors, maintenant, je voudrais vous parler d'un lieu commun de l'ecclésiologie, ce qu'on appelle l'école de Tübingen, avec son représentant le plus fort, Müller, qui lui... vivent au début du 19e siècle. Et la grande intuition de l'école de Tübingen, c'est le renouveau de l'ecclésiologie qui, vous voyez, je vous le résume en deux mots, c'est l'Église doit être considérée en elle-même, non pas seulement comme une société visible et hiérarchique, ni comme un magistère, mais en sa vie interne, et comme un organisme tout entier vivant. Et ça, c'est à partir de ce moment-là que il y a un renouveau de la réflexion sur l'Église. Autrement dit, et on va essayer de situer les différents regards que l'histoire nous a donnés, que ce soit le regard magistériel, que ce soit le regard temporel spirituel, que ce soit le regard sur la prédominance du pape et autres. Vous voyez, la question, c'est d'abord, regardons l'Église dans ce qu'elle est. Alors ça, c'est tout le chapitre premier de la méditation sur l'Église du Père de Lubac qu'on a lu à table. Regardons d'abord l'Église comme mystère, et dans la lumière de ce mystère, découvrons ce qu'est véritablement l'Église. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu plus ou moins de réussite, parce que vous savez, dès qu'il y a une école de théologie, il y a les opposants, donc ils sont un peu chamaillés. Ce qui est intéressant, c'est l'intention. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est cette intention qui a prédominé pour un petit peu la constitution de Lumen Gentium. Alors, voyez, vous avez au passage le fruit immédiat de ça, c'est 1870, Concile Vatican I, la constitution des Ecclésias. Et l'affirmation alors ça, je vous invite, ça principalement pour les frères, c'est un texte qu'on doit lire absolument. Voyez, l'insistance de cette constitution des Ecclésias, c'est de montrer que l'Église est avant tout un corps mystique et non pas avant tout un corps hiérarchique. Et cela sera repris en 1943 par l'encyclique Mystici Corporis, qui aura comme intention de faire le lien entre le visible et l'invisible. Ça, c'est toute l'intention de Mystici Corporis. Autrement dit, le corps du Christ n'est pas le pur domaine du spirituel et de la grâce, mais c'est un corps social visible aussi. Et vous ne pouvez pas dire, d'un côté on est dans le pur spirituel ou on est dans le pur visible. C'est en même temps un corps visible et un corps spirituel. Et là, le Concile s'appuiera sur le mystère de l'incarnation pour défendre cette idée. Et ce qui est très important, c'est, il y a une réflexion, alors là je vous cite un passage de l'encyclique, il est dit, l'Église et corps du Christ ont un sens réel. L'Église et corps du Christ ont un sens réel, non purement métaphorique et moral, mais non un sens physique d'identité. C'est pourquoi on l'appelle mystique. Ce corps mystique est l'Église catholique romaine. Ceux qui n'étant pas membres de cette Église sont cependant bénéficiaires de la grâce du Christ, sont dits ordonnés au corps mystique. Et là, de développer cette fameuse citation de Saint-Cyprien, « Extra ecclesiam nulla salus », en dehors de l'Église, point de salut. Ah oui, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand je parle du corps mystique, soit je vais me situer dans une dimension purement spirituelle, et puis à côté, je vais parler d'un corps visible. Cela, Mystici Corporis se refuse, s'y refuse, en comprenant qu'il y a... Pas sûr que ça existe, le spirituel. Ce qu'on voit, ça, on sait que ça existe. Donc l'Église corps mystique, c'est pas très bien ce que c'est. Ce qui est important, c'est l'Église qui bouge, l'Église qu'on puisse voir, l'Église qu'on puisse expérimenter. Mais dès qu'on parle d'Église corps mystique, vous voyez, et la tendance, c'est de retomber dans le dualisme, d'un côté le temporel, d'un côté le spirituel. Et l'intention de Mystici Corporis, c'est de bien signifier que le corps du Christ assume cette double réalité, réalité spirituelle, réalité temporelle. On le verra dans les textes de Lumen Gentium. Alors voilà, désolé pour les spécialistes de l'histoire de la théologie, parce qu'ils seront bien déçus d'avoir vu 20 siècles abordés en 30 minutes, mais cependant, je ne pouvais pas faire autrement, donc je vous prie humblement de m'excuser, ce qui est déjà fait, je pense. Et puis maintenant, on va travailler Lumen Gentium en tant que tel. Parce que maintenant, on est disposé, si vous voulez, l'introduction est terminée, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Alors, Lumen Gentium. Constitution dogmatique. Donc, constitution dogmatique, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, c'est une constitution qui... c'est un texte qui a une notoriété, oui, on pourrait dire ça, une notoriété particulière dans l'ensemble des textes du Concile. Autrement dit, vous savez, il y a différents grades, il y a ce qu'on appelle des constitutions, il y a ce qu'on appelle des décrets. Effectivement, une constitution, ça montre l'importance accordée au sujet traité. Il faut savoir que le sujet traité est repris de la constitution des Ecclésias, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, en 1870, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu une guerre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça dans vos livres d'histoire, mais en 1870, il y a eu une guerre, et paf, le concile était en train de se réunir, et était dans les premiers chapitres de la constitution des Ecclésias. Et heureusement, le premier chapitre, c'était quoi ? C'était l'infaillibilité pontificale. Donc, ça, tout le monde était d'accord sur l'infaillibilité pontificale. Et puis après, on va réfléchir au reste au mystère de l'Église. Puis, la guerre, le Concile Vatican I terminé. On se dit, mince, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, vous voyez, un des buts principaux de Vatican II, c'était de reprendre et de repenser le De Ecclesia de Vatican I. Et de resituer dans une certaine unité la pensée sur l'Église. Alors, à cela, certains théologiens, je crois qu'il faut en citer quelques-uns, l'école de Tübingen d'une façon lointaine, mais d'une façon beaucoup plus immédiate, des théologiens français, principalement, le père Congard et le père de Lubac, ont énormément aidé à l'élaboration d'une pensée qui tienne compte d'un certain ordre théologique sur l'Église. Et à partir de ce moment-là, les pères synodaux ont travaillé sur un texte qui a été complètement remanié. Alors là, je ne vais pas vous faire l'histoire, la genèse du texte, parce qu'à mon avis, là, il faudrait beaucoup trop de temps. Mais on arrive à un produit fini qui manifeste une certaine intention. Cette intention, quelle est-elle ? Alors, vous aurez des papiers tout à l'heure, au prochain cours, vous aurez des papiers, donc rassurez-vous. Pour l'instant, je fais comme si vous en aviez. Mais alors, vous n'en avez pas, bon. Vous voyez, quelle est l'intention du Concile par rapport à l'Église. Premièrement, c'est de situer l'Église dans sa nature et dans sa mission. Ça, c'est l'intention fondamentale. Et Lumen Gentium est là pour parler de la nature de l'Église et parler de la mission de l'Église. Autrement dit, ce n'est pas simplement une réflexion conjoncturelle où par rapport à telle hérétique, c'est pas bien. Ce qui a eu lieu jusqu'à Vatican I. Vous voyez, jusqu'à Vatican I, on avait des anathèmes. Celui qui ne croit pas que le souverain pontife, dans un axe ex cathedra, engage l'ensemble de la communauté chrétienne, de l'Église romaine catholique, qu'il soit anathème. Là, on est dans un climat qui est tout à fait autre. On veut réfléchir d'une façon beaucoup plus positive, entre guillemets. Un petit peu ce qui s'est fait pendant le Concile de Trente, bien que le Concile de Trente ait été pas mal poussé par la réforme et puis un peu la pagaille ambiante dans l'Église. Mais ce qui est important, c'est de voir que là, on a une intention de réflexion globale. Le mot n'est pas beau et le mot n'est pas juste, mais vous voyez, d'une réflexion un peu générale, le mot est encore pire, mais bon, vous m'avez compris, vous voyez, sur ce qu'est l'Église dans sa nature et dans sa mission. Et l'ambition de ce texte n'est pas de répondre à tel ou tel problème. L'ambition de ce texte, c'est de dire voilà la nature de l'Église, voilà la mission de l'Église. Et ça, c'est l'ambition du Concile Vatican II. Alors, comment s'y prend-il? Alors, il y aurait plusieurs manières. Vous voyez, on met des tas d'éléments, alors, vous voyez, les ministères, les religieux, parce que ça, il faut bien en parler, les laïcs, puis on met tout ça dans un truc, puis on secoue, puis on voit dans quel ordre ça sort. On aurait pu faire comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce texte a une unité doctrinale qui est très importante à souligner. Vous voyez, toute chose est à sa place. Alors, il faut savoir, vous voyez, c'est comme ça un texte conciliaire. Un texte conciliaire, c'est travailler. Alors, comment ça se passe, hein, tout simplement, au père du concile? D'abord, une commission établit un plan. On travaille ce plan. Après, on fait une rédaction. Puis après, on travaille, vous voyez, vous avez même des délibérations sur des virgules, vous voyez, bon, pour vous dire que... Et ce qui est important, c'est de voir que toute chose est effectivement à sa place. Alors maintenant, quand on regarde un petit peu la structure de ce texte, hein, vous aurez tout à l'heure cette feuille qui vous montrera, c'est la table des matières de Lumen Gentium. Huit chapitres, bon, quelque chose de pas trop long. Et dans ces chapitres, il y a une chose très importante, c'est qu'on commence par le mystère de l'Église. Souvenez-vous, le livre du père de Lubac. Et en insistant sur le fait que l'Église, elle tire son origine du mystère de la Très Sainte Trinité. Et elle tire son origine du plan de Dieu et de la volonté divine. Ça, c'est la première chose. Alors, on le développera tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, je vais comprendre que l'Église, elle est sacrement, elle est signe pour le monde du mystère du Christ. Alors, on reviendra, hein, tout à l'heure sur ces... Vous voyez, après ça, le chapitre 2 va parler du peuple de Dieu. Alors, ça aussi, c'est important. Vous voyez, elle ne va pas parler du pape, après des évêques, des prêtres et des laïcs. Non. Elle va parler du peuple de Dieu. Autrement dit, s'enracinant dans le plan de la Providence, comme je le disais tout à l'heure, Kahal, vous voyez, qui signifie communauté, mais réunie au nom de Dieu. Et cette communauté, c'est aussi bien l'épiscope que le presbyte, que le diacre ou que le lambda XYZ. Vous voyez, et c'est important de voir que l'intention, c'est de situer dans le plan divin un peuple qui est choisi par Dieu. Et dans ce peuple, il y aura différentes fonctions. Vous voyez, autrement dit, il n'y a pas d'abord de distinction entre prêtre et laïc. Non. Il y a un unique peuple de Dieu dans lequel tout homme fait partie. Alors, à des degrés différents. Et seulement à partir du chapitre 3, il y aura une réflexion sur la constitution hiérarchique de l'Église et spécialement de l'épiscopat. Mais important de souligner cette intention théologique. Après, au chapitre 4, ben, on parlera des laïcs. Après, au chapitre 5, alors là, on va y revenir longuement parce que c'est essentiel, on va parler de l'appel universel à la sainteté dans l'Église. Alors ça, je ne souligne pas, mais c'est important, je le reprendrai tout à l'heure. Au chapitre 6, incontournable, on parle des religieux. Au chapitre 7, ben, on parle d'une chose aussi absolument fondamentale, c'est la dimension eschatologique de l'Église. Autrement dit, l'Église est orientée vers le retour du Christ, elle est orientée vers la gloire. Et puis au chapitre 8, on parle de Marie, modèle de l'Église. Donc voilà, là vous avez un petit peu présent la structure de Lumen Gentium. Pensez bien qu'elle est ordonnée, vous voyez, c'est pas une sorte de brouillon dans lequel on a mis des chapitres comme ça à droite à gauche. Et l'ordre, c'est d'abord le mystère de l'Église, donc la manifestation du plan divin qui unit l'ensemble de l'humanité, et dans cette unité du peuple de Dieu, la différence des ministères, la différence des charismes, le ministère du pape, de l'évêque, du prêtre, le ministère du laïc, là on précisera ce qu'est la vocation du laïc, et puis en même temps tout ce peuple de Dieu, il est appelé dans dans un appel pressant du Seigneur à la sainteté. Bon, ça, j'y reviendrai. Cette sainteté qui est signe eschatologique, ce que manifeste la vie religieuse, parce qu'il faut savoir que la vie religieuse, c'est quand même ça. Hein. Si ça vous intéresse, mes frères, lisez le chapitre 6, c'est quand même intéressant. Et puis, en même temps, cette dimension eschatologique, ben, elle se manifeste dans l'image parfaite de la racheter, qui est la Vierge Marie, à travers toute l'économie, où effectivement Marie est reçue comme modèle de la foi, de la croissance, de la foi, de l'espérance et de la charité, nous dit le chapitre 8 de Lumen Gentium. Voilà un petit peu présenté en général, et puis dans 5 minutes, nous allons lire certains passages qui me semblent signifiants pour que vous puissiez avoir une petite intelligence du texte.